Mon violeur s'appelle Dania. Il a 19 ans.
Est-ce que vous reconnaissez quelqu'un parmi ces personnes ?
Pour la première fois, on a un parquet en Ukraine qui enquête sur les crimes de guerre pendant un conflit.
On n'a pas entendu le missile arriver. Tout s'est passé en une seconde.
On note le marquage des bombes qui va permettre d'identifier les commandants qui ont donné l'ordre de l'attaque.
Ce ne sont pas des humains, ce sont des déchets.
Crimes de guerre en Ukraine, la justice est en marche, est un documentaire qui a été proposé en compétition dans la section film de plus de 40 minutes dans le cadre du FIGRA, Festival international du grand reportage et du documentaire de société, et qui s'est déroulé du 28 mai au 2 juin à Douai. Ce documentaire retrace le début de l'invasion russe, tandis que la population ukrainienne s'engage dans l'armée ou la défense nationale. À Kiev, les services du ministère de l'Intérieur et de la Justice décident de mener des enquêtes destinées à prouver les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. C'est une première dans l'histoire des conflits, et suivre les enquêteurs et les magistrats ukrainiens dans leur travail permet de comprendre à la fois combien leur mission est nécessaire, mais aussi la mécanique de ces crimes. Une question se pose cependant. La justice peut-elle vraiment se mettre en marche alors que la guerre gronde encore ? Avant de retrouver la réalisatrice Elisabeth Drévillon en interview, je vous propose d'écouter les réactions de deux élèves du lycée Saint-Jean de Douai, propos recueillis à l'issue de la projection du documentaire.
C'est marquant. On voit des choses que la presse va plutôt filtrer pour éviter de traumatiser. Et au final, c'est comme si on avait un mur dans la presse où on ne voyait rien, en fait. Et donc là, on va bien plus loin, au final.
Et en fait, je trouve qu'ici, on voit beaucoup plus les traumatismes des personnes qui vivent justement en Ukraine. Ce qu'on voit moins dans le journalisme français, par exemple, où on voit plus le côté très politique, où on voit surtout des images de guerre avec des batailles. Mais là, on se concentre principalement sur ce que les gens ressentent, et je trouve ça très important, parce que les premières personnes touchées dans des guerres comme ça, c'est tout d'abord ceux qui y vivent, en fait.
Dans le documentaire, ce qui est très bien expliqué, c'est ces armes à sous-munitions. Alors, est-ce que vous aviez, justement, j'imagine que vous n'avez pas background militaire, mais est-ce que vous saviez à quoi ça servait et que c'était interdit ?
Oui, parce qu'on voit ça, que c'est une arme qui a été développée, je ne sais plus, entre la première ou la deuxième guerre mondiale. Et donc ça a été inventé à ce moment-là, et donc c'est après ces guerres-là que justement ça a été interdit. Ils ont mis une sorte de liste avec différentes armes qui étaient interdites, et malheureusement elle n'a pas été mise à jour, et donc ça fait qu'on a de nouvelles armes qui sont peut-être pires que celles-là et qui au final sont totalement légales au final.
Je ne connaissais pas du tout, en fait j'avais déjà entendu des armes qui étaient utilisées et qui étaient pourtant interdites, et en fait c'est là où on se rend compte que malgré la politique internationale, on comprend très rapidement qu'aucun pays ne respecte réellement les règles qui leur sont imposées en utilisant des armes qui peuvent être des armes de destruction massive, et ce qui crée en fait un réel conflit même sur le plan international et même au sein du pays, en fait.
Qu'est-ce que vous pensez aussi du flou juridique qui englobe en fait ce documentaire pour les procès, etc.
Je trouve que pour l'instant, c'est un peu compliqué de juger, mais qu'on sait que plus tard, ça va poser problème au final, parce qu'on a beaucoup de personnes qui vont peut-être penser avoir une justice après et qu'au final, vont rien avoir. Moi, j'ai peur pour la population qui s'accroche dessus et qui, au final, va peut-être tomber des nues dès que on va savoir que ça va pas être possible de faire autre chose, au final.
Moi, je trouve que ce flou juridique, il crée un peu des tensions, même au sein de la population, qui ne comprennent pas forcément pourquoi on ne réagit pas, pourquoi est-ce que le gouvernement, les oublie un peu. Ils se concentrent tellement sur le côté militaire qu'ils oublient, en fait, les causes psychologiques aussi chez les populations. Et en fait, ce flou juridique, il prouve clairement que, en fait, la population est mise au second plan.
On retrouve à présent Elisabeth Révillon, réalisatrice du documentaire « Crimes de guerre en Ukraine, la justice est en marche », pour évoquer avec elle, entre autres, son travail autour de son film.
On est là pour parler de votre film que vous allez présenter, donc « Crimes de guerre en Ukraine, la justice est en marche ». C'est intéressant parce que ça parle aussi des difficultés d'enquêter justement, et comment l'Ukraine, enfin, c'est-à-dire les responsables ukrainiens d'enquête, ont commencé à enquêter pendant le conflit. Ça, c'est une chose qui est plutôt inédite.
C'est totalement inédit, mais les Ukrainiens, c'est pas leur première fois. Hein. Ils ont commencé, en fait, pendant la guerre, en 2014, la guerre dans le Donbass. Ils avaient déjà commencé à faire ça, et donc, dès le 22 février, ils ont mis en place ce département, crime de guerre, afin de pouvoir récolter surtout les preuves tout de suite. Parce que le problème, c'est que dans toutes les guerres que j'ai pu couvrir, les enquêtes se menaient après, en temps de paix. Mais en temps de paix, il n'y a plus de preuves, ou de moins en moins de preuves. Les preuves ont été piétinées, elles ont été enfouies. Alors que là, c'est extrêmement important pour eux. Lorsqu'un obus tombe, lorsqu'un missile tombe, parce que c'est plutôt une guerre de missiles, hein, pour moi, c'est une guerre d'objets volants, en fait. Hein. Ah oui. Et lorsque ces missiles tombent, récolter le missile, relever la date de fabrication, le numéro, tout ça leur permet de remonter la chaîne de fabrication et de pouvoir officiellement porter plainte contre la Russie.
Alors, il y a eu une rencontre avec le public, donc à l'issue de la projection. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez pensé de ces questions qu'on vous a posées?
Écoutez, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. D'abord, beaucoup de jeunes. Et donc, ça m'a fait beaucoup de bien, parce que je me dis que rien n'est perdu. Et c'est extrêmement important dans les moments que nous vivons aujourd'hui. Et c'est vrai que cette jeunesse qui s'interrogeait sur la justice internationale, sur le fait de savoir si ces criminels seraient un jour punis par la justice, j'ai trouvé ces questions intéressantes. Et venant de jeunes, c'est encore plus percutant. Voilà.
Alors moi, j'ai réalisé quelques, on va dire, micro-trottoirs, entre guillemets, avec des élèves à la fin. Ils étaient assez emballés, justement, par le côté complexe de ces missiles, avec des sous-munitions dont on parle, qui sont interdites, en plus, par la loi internationale, par le tribunal. Enfin, je ne sais pas si c'est un tribunal. Ouais. Et ils nous disaient que c'était génial, ce reportage, parce que, du coup, même s'ils n'ont pas une sorte de background militaire, ils ont compris comment ça marche, ce genre de missile.
Oui, c'était extrêmement important justement d'expliquer, parce que depuis le début de la guerre, on parle de missiles d'armes à sous-munitions, qui sont effectivement, comme vous le disiez, totalement interdites par le droit international, parce qu'elles font des dégâts monumentaux. Lorsqu'un missile tombe sur un endroit X, il se répand, comme ce sont des fragmentations, et qu'elles explosent en l'air, et bien elles peuvent couvrir des kilomètres. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir entendu le missile, mais vous pouvez mourir par les fragments qui vous tombent dessus. En fait, c'est une pluie de petites fléchettes, de boulons d'acier, parce que ces containers, en fait, qui sont à l'intérieur des missiles, sont composés de petites barres de fer, de flèches, un truc horrible qui vous déchire le corps. C'est pour ça que ça cause énormément de dégâts. Et dans le sens où, en plus de ça, dans certains de ces missiles, vous avez des mines qui, elles, se répandent partout. Et quand les enfants marchent ou jouent, on ne les voit pas, elles sont de couleur verte en plus. Et c'est très pervers, tout ça. Je n'ai jamais vu autant d'amputés, de gens déchiquetés. Enfin, vraiment, j'ai couvert... Je suis grand reporter depuis 1985. Ouais. J'ai couvert beaucoup de guerres. Mais celle-là, elle est profondément inhumaine.
D'ailleurs, il y a des témoignages assez probants dans ce film, notamment cet homme qui, lui, il s'est promené son chien, il s'est rendu compte de rien. Et puis ce petit garçon qui, en levant les yeux, boum.
Oui, ben oui. Ouais. Ce qui est terrible sur l'histoire de cet enfant, parce que c'est un bébé, il n'a même pas 2 ans, et il avait 7 mois. Les parents qui avaient été confinés, parce que, bien évidemment, les gens ne sortaient plus, c'était leur première sortie. Pour lui acheter des chaussures, parce qu'il venait juste de marcher.
Alors, il y a un paradoxe quand même, alors je vais en terminer avec ces missiles, c'est que comment la Russie peut encore utiliser ces missiles, et même d'autres pays, je suis sûr, alors que c'est interdit.
Tout simplement parce que la Russie n'a pas signé les accords d'Oslo. Ah, oui, tout comme la Russie n'a pas signé le traité de Rome. Ni l'Ukraine, d'ailleurs. Ni l'Ukraine, et c'est un problème. Donc, à partir du moment où vous n'avez rien signé, pourquoi est-ce que vous devriez appliquer des accords pour lesquels vous n'êtes pas d'accord, quoi ? Donc, effectivement, mais vous savez, il y a d'autres pays qui ont signé et qui en fabriquent. Et mais bien sûr. Qui ne les utilisent pas, qui les exportent. C'est beaucoup plus simple.
Voilà. Il y a aussi, ce qui est intéressant, c'est Les enquêteurs, il y a pas mal de procureurs dans pas mal de régions qui enquêtent, et c'est assez pointu quand même. Vous insistez aussi dans votre documentaire sur le côté objectif d'enquêter et d'essayer d'être neutre juste pour analyser et comprendre et récolter les preuves, mais non pas tomber dans le côté un peu c'est pas possible, c'est terrible, ça va pas le faire, etc. C'est difficile quand même. 30 000 dossiers, je crois, qui ont été déposés.
Alors, 30 000 dossiers au moment où je fais mon film, aujourd'hui, nous en sommes à plus de 120 000. Voilà. Donc, il y a des dossiers qui s'ouvrent tous les jours. Alors, être objectif, vous voulez dire côté procureur ?
Oui.
La ligne est ténue entre émotion et justice, parce que je dois avouer que les procureurs que j'ai suivis ont essayé vraiment d'être objectifs. Vraiment, ce sont de grands procureurs, ce sont des gens qui ont la loi chevillée au corps. Mais après, quand vous perdez vous-même votre mère, votre père, votre sœur dans un bombardement, l'émotion, on ne peut pas leur reprocher ça. Par contre, le droit international reste le droit international. Et c'est là où il y a quelques erreurs de commises par la justice ukrainienne.
Ces enquêtes pour crimes de guerre, donc ça englobe de manière générale les exécutions sommaires, évidemment les tirs de missiles, mais aussi les viols. Et là, du coup, il y a quand même un témoignage, celui de Victoria, qui est assez probant, parce que... Évidemment, je me suis dit à un moment donné, si elle explique un petit peu ce qui lui est arrivé, elle ne va pas trop rentrer dans les détails. Et là, elle est crue dans votre documentaire. Alors, est-ce que ça a été long avec elle pour pouvoir lui dire « il faut témoigner » Parce que ça, c'est la difficulté aussi, comme vous le disiez aussi dans le film, et après avec la rencontre, de pouvoir convaincre ces victimes de témoigner. Parce que sans témoignage, il n'y a pas de preuve.
Oui, ça a pris un certain temps. Victoria ne m'a pas dit oui du jour au lendemain. Après, elle avait cette soif de vérité. Elle voulait tellement pouvoir reconnaître son agresseur et pouvoir qu'il soit traduit en justice qu'elle m'a dit oui. Mais l'interview a duré très longtemps. Ce que vous voyez dans le film, c'est un condensé. Et à un moment donné, vous savez, c'était très difficile pour moi, pour mon équipe, pour mon traducteur, pour mon caméraman, parce que on a en même temps nous aussi l'impression de les violer quelque part. Ouais, excusez-moi l'expression. C'est compliqué. Moi, j'étais pas très à l'aise. Alors, je pense qu'elle m'a aussi parlé parce que je suis une femme. Mais c'est dur. C'est moi, j'ai dû interrompre l'interview. Alors, pour elle, parce que je voyais que ça montait trop et que elle allait s'écrouler. Et je ne suis pas pour de la télévision spectacle. Je pense que les mots de Victoria sont assez forts, on n'a pas besoin de la voir plongée par terre, ça ne sert à rien. Et puis même pour moi, j'étais obligée parfois d'interrompre. On sortait prendre l'air, parce que c'est dur, c'est violent.
Le viol maintenant est devenu principalement une arme de guerre. C'est dramatique en fait, parce que là... Il n'y a pas de conflit entre deux camps, en fait. C'est vraiment... c'est l'humiliation, et pour la personne, et forcément, et pour l'entourage, qui ne comprennent pas forcément.
C'est la plus grande arme de guerre psychologique. Quand vous violez une femme, quand vous violez un enfant, quand vous violez un homme... Parce qu'il faut quand même dire une chose, c'est qu'en Ukraine, il n'y a pas que les femmes qui sont violées. Les enfants sont violés, et les hommes aussi sont violés. Alors, majoritairement, bien entendu, ce sont les femmes. Ce sont des prises de guerre, en fait. Ce sont des butins. C'est terrible à dire, mais c'est ça. Ce sont des prises de guerre. Et en violant une femme, on viole la communauté entière. On détruit psychologiquement sa famille. On la détruit, elle, bien sûr, physiquement et psychologiquement. Parce que je peux vous dire que Victoria, le viol dont elle a été victime, je l'ai vu quand même quelques semaines plus tard, il en restait des traces médico-légales. Donc vous imaginez la violence. Et puis il y a son mari, il y a ses enfants qui vivaient en Allemagne à cette époque-là, et il y a toute la communauté, tous ses voisins. Et le pire dans tout ça, c'est qu'après, ces femmes-là sont rejetées. C'est pour ça qu'elles ne portent pas plainte, parce qu'elles ont peur, en fait. Victoria, à la fin, au début c'était une victime, à la fin c'était une collabo. pour pas dire une pute.
C'est aussi difficile hein, pour ceux qui travaillent justement pour recueillir ces témoignages de femmes. Alors vous le dites dans votre film, mais aussi vous montrez les gens qui essayent d'avoir des témoignages de ces femmes, de quantifier justement le nombre de viols, que ce soit sur des femmes ou des hommes ou des enfants, comme vous dites. Comment ça est-ce que vous avez discuté avec justement ces gens qui sont responsables de pouvoir recueillir ces témoignages? Comment ils s'y prennent pour les retrouver déjà et d'une?
Alors, ils mènent des enquêtes sur le terrain, c'est-à-dire que toutes les villes et villages qui ont été occupés par les Russes deviennent un point d'enquête pour les services du département de crimes de guerre. Donc, ils vont dans ces endroits-là et ils parlent avec les uns et les autres. Et au bout d'un moment, la parole se libère et on entend dire « oui, voilà, c'est comme ça qu'eux, ils ont appris. Oui, ben, y a eu Natalia, il y a eu Victoria dans notre village. » quoi. Village, c'est un petit hameau de... une cinquantaine d'habitations, hein, pas plus, même pas, et encore, je pense qu'il y en a moins. Mais... Et c'est à partir de là, ils rencontrent donc les victimes, et c'est elles qui acceptent pas de témoigner. La majorité du temps, elles refusent. Elles ont trop peur. Mais d'elles-mêmes, elles ne viennent pas. Ou alors, ils passent aussi par le biais des psychologues. Il y a aussi beaucoup d'organisations humanitaires qui ont déployé sur tout le territoire des dizaines de psychologues, femmes essentiellement, qui vont à la rencontre des habitants et qui, quand ils entendent parler d'une personne, ils vont la voir et ils font des débriefings, ce qu'on appelle des débriefings psychologiques, et c'est comme ça qu'ils les amènent petit à petit à porter plainte. Mais de toute façon, toutes les plaintes qui ont pu être déposées jusqu'à présent ne sont qu'une portion infinitésimale de tout ce qui s'est passé... malheureusement, depuis le 22 février 2022.
Une chose frappante aussi, c'est qu'on s'aperçoit, notamment au travers des propos de Victoria, que ces gens qui sont juste des citoyens, qui vivent leur vie tranquille, qui sont pacifiques, deviennent violents et veulent évidemment la mort. Bon, ce qui est un peu logique de Poutine et de ce soldat qui l'a violé, etc. Ça les rend méchants et ça, psychologiquement, ça peut aussi avoir un impact en plus sur leur vie future, s'il y en a une.
Bien sûr, vivre dans la colère et dans la haine, de toute façon, n'apporte pas un futur paisible. Ce n'est pas possible. Donc, mais en même temps, on peut. Quand Victoria dit je ne veux pas qu'il aille au paradis, c'est quelqu'un de très croyant, parce que la religion a beaucoup d'importance en Ukraine. Je veux qu'il meure. Poutine, quand elle dit lui et son Poutine, c'est une image pour elle, mais son violeur, elle veut absolument qu'il soit détruit. C'est compliqué, on ne peut pas lui dire, non, t'as pas le droit. Comment voulez-vous? C'est pas possible. Hein. Cette femme a été violée une nuit entière, plusieurs fois, déchirée. Donc, la justice doit aussi prévaloir, malheureusement. Alors, moi, je le dis avec ma voix d'occidentale, hein, de journaliste qui rentre à la maison à un moment donné. Parce que c'est vrai que nous vivons ce qu'eux-mêmes vivent. Hein. Moi, le matin, je me levais, je ne savais pas si le soir, je serais encore en vie. Donc, voilà. Mais c'est notre métier. Mais on rentre toujours. On espère rentrer. Voilà. Et alors qu'eux restent. Et cette violence, cette peur, cette terreur permanente, je ne suis pas psychologue, mais je peux comprendre qu'à un moment donné... la soupape explose, quoi, et qu'on ait envie et qu'on rêve on a de la haine et qu'on rêve de vengeance.
Et puis malheureusement, le conflit n'est toujours pas terminé, donc voilà.
Et malheureusement, je crains qu'il dure encore un certain temps.
Parlons de justice, justement, vous êtes juriste de formation. Il y a une scène aussi où là, le côté juridique, il est un peu flou. Pas mal d'intervenants disent « mais non, c'est pas comme ça qu'on doit juger les gens », notamment avec cet épisode où les deux hommes sont derrière une vitre, hein, donc voilà, ils se font interroger, mais en fait, il n'y a pas de preuve, il n'y a rien du tout. Votre point de vue là-dessus, justement, en tant que juriste de formation?
C'est pas possible. Ce genre de choses, lorsqu'on accuse quelqu'un, il faut apporter des témoignages et des preuves. Et on ne peut être jugé que sur la base de preuves et de témoignages. Ce sont deux soldats qui n'ont pas demandé, eux, à envahir l'Ukraine, qui n'ont pas demandé à bombarder l'Ukraine, mais qui sont soldats. Et soldats dans l'armée russe, ça veut dire déjà quelque chose. Ça veut dire que déjà, à la base, ce sont des gens qui sont morts de trouille. Parce que s'ils n'exécutent pas les ordres, c'est eux qui sont exécutés. Ces deux soldats-là, alors moi je n'y étais pas, je travaille que sur les faits, mais il y a une chose qui serait certaine, c'est que les faits disent qu'il n'y a ni preuve ni témoignage. Et le problème, c'est que c'est eux qui sont inculpés, donc ils sont inculpés sur leur reconnaissance de culpabilité uniquement. Êtes-vous coupable ? Oui, je suis coupable. Et si vous voulez qu'ils vous disent, ils ne vont pas dire non, je ne suis pas coupable. Donc ils disent oui, je suis coupable, j'ai tiré. Et à partir de là, c'est une condamnation à 11 ans et 6 mois de prison, ce qui est quand même énorme. Cela étant dit, ils m'ont quand même confié, préféré faire 11 ans de prison en Ukraine que 11 ans de prison, voire le goulag, voire la mort en Russie. Parce que un renvoi de ces soldats-là sur le sol russe, c'est les condamner à mort.
Et ça s'est passé autour de Belgorod, hein, je crois, c'est bien ça. Hein. C'était des tirs...
C'était du côté de Kharkiv. Hein.
Ah, c'était Kharkiv. Voilà.
Kharkiv est une ville qui est à 30 km de la frontière russe, vous voyez, donc c'est vraiment très très proche. Et ça s'est passé dans un petit village au-dessus de Kharkiv, hein. Et donc à la frontière, ils étaient du côté de Belgorod, eux, oui, et à la frontière avec l'Ukraine, quoi.
Il faut comprendre aussi que ces soldats, même si, bon, bah, évidemment, ils tuent des gens, mais au départ, ils étaient envoyés, au début du conflit, on leur a dit, on ne fait que des manœuvres. Et donc, du coup, ils sont encore plus victimes, parce que, ben, eux, ils ne savent pas, ils diront, voilà. Alors, du coup, je ne sais pas si vous avez un point de vue là-dessus, parce qu'il y a une manipulation aussi de ces soldats, finalement.
Alors, en tout cas, en ce qui concerne, moi, je ne peux parler que des deux soldats, enfin, j'en ai rencontré d'autres, hein, qui ne sont pas tous dans le film, parce qu'on ne peut pas tout mettre. Mais c'est vrai que la majorité ne savait pas qu'ils allaient attaquer l'Ukraine. Après, faut pas tout confondre. Moi, le procès que je filme, c'est le procès de deux soldats qui tirent des obus sur l'Ukraine et qui ont potentiellement tué des gens. Or, il n'y a pas eu de victimes. Il n'y a eu que des dégâts matériels. Mais bon, après, il y a des victimes psychologiques, parce que de toute façon, quand vous prenez plus de 120 missiles sur la tête, voilà. Et puis après, il y a d'autres soldats qui ont commis des meurtres, des viols. On ne peut pas comparer le soldat qui est derrière la vitre le jour de son jugement et qui est un artilleur et qui a appuyé sur un bouton et celui qui a violé Victoria. Okay. Pour moi, ce sont deux choses différentes. Parce que celui qui viole Victoria, soit il a été incité par son chef, ce qui semble être le cas, mais il l'a quand même fait. Il avait aussi son libre arbitre de le faire ou pas le faire, hein, mais il l'a fait. Et c'est pas le seul. Alors après, c'est dans toutes les guerres, vous savez, en Yougoslavie c'était pareil, en Afghanistan c'était pareil. Enfin, les soldats qui violent des femmes, c'est un bis repetitas. En Libye c'était la même chose. Enfin bon.
Et enfin, pour terminer, il y a eu cette polémique aussi avec Vladimir Zelensky, hein, qui donc a parlé de génocide. Là, alors, est-ce que c'est le terme qui est mal approprié ? Et pourtant, si on dit massacre, c'est pareil, quoi, en fait.
En termes de communication, ça n'a pas du tout la même force. Si vous dites massacre, c'est un massacre. Vous savez, les massacres, il y en a partout dans le monde. Hein. Si vous dites génocide, ça renvoie à des histoires. Arméniens, juifs, Rwandais, Tutsi. Et c'est figé dans le marbre. Comprenez, dans le marbre de l'histoire. Ça restera. Après, quand Zelensky prononce ces mots-là, c'est à la sortie de Boutcha, quand on découvre... Oui, mais enfin, 422 morts, ce n'est pas un génocide. Hein. C'est-à-dire que le terme juridique est important. Il est vrai que ce ne sont pas aux politiques de dire si c'est un génocide, mais aux juristes internationaux. Et ce terme a été pris naissance à Nuremberg, après la Seconde Guerre mondiale, et après que les Allemands aient exterminé 6 millions de Juifs. Vous comprenez ? Et un de mes intervenants, un avocat américain, l'explique très très bien. Il dit, ce n'est pas parce que vous avez 100 000 morts que c'est un génocide, même 200 000. Et ce n'est pas pire qu'un crime contre l'humanité. Ce qui se passe en Ukraine, ce sont des crimes contre l'humanité. Peut-être que demain, la justice internationale dira que c'est un génocide, je ne sais pas. Mais pour l'instant, la justice internationale ne s'est pas prononcée là-dessus. C'est compliqué. Est-ce qu'il y a une volonté d'éradication totale du peuple ukrainien comme il y a eu une volonté d'éradication totale du peuple juif, hein ? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas juriste internationale. Je ne peux pas trancher. En tout cas, lorsque je suis sur le terrain, le mot génocide m'interpelle. Voilà. Et je me pose la question. Et je dis, il faut raison garder. Attention, parce qu'il faut remettre tout ça dans le contexte. J'ai tourné ce film il y a un an, les choses ont beaucoup évolué, mais je crois qu'il faut faire très très attention avec ce mot. Voilà.
Et enfin, cette procureure qu'on voit au début du film, elle est arrivée en 2020 et en 2022, elle a été... Il s'est passé quoi en fait?
J'ai demandé à Zelensky. Je ne
sais. Il s'entendait pas, je crois.
C'est ça. Non, il s'entendait pas très bien. C'était quelqu'un, c'est une femme qui a énormément de charisme, qui était assez adulée du peuple ukrainien. C'est une femme qui n'hésitait pas à aller sur le terrain, même sous les bombes. Voilà. Après, moi, je n'ai pas enquêté. On a parlé de corruption. Mais de toute façon, la corruption, elle existe en Ukraine. Donc, même encore aujourd'hui, donc, à tous les étages. Je pense qu'elle faisait de l'ombre. Après, je n'ai pas enquêté sur la chose. Et aujourd'hui, elle est ambassadrice d'Ukraine en Suisse. C'est que ça ne doit pas être si dramatique que ça, ce qu'elle a fait.
Bah merci beaucoup, merci et puis bah bonne fin de Figra, et puis bah bonne chance pour votre film qui est en compétition officielle.
Inch'Allah.
C'était un reportage réalisé lors du FIGRA, Festival international du grand reportage et du documentaire de société, qui s'est déroulé du 28 mai au 2 juin à Douai. On était en compagnie d'Elisabeth Révillon, réalisatrice du documentaire « Crimes de guerre en Ukraine, la justice est en marche », proposé en compétition dans la section film de plus de 40 minutes. Interview illustrée par des réactions d'élèves du lycée Saint-Jean de Douai, recueillies à l'issue de la projection. Et pour info, ce documentaire a reçu le prix du public lors de cette 31e édition du FIGRA.